Bienvenue dans Prezicast, le podcast OpinionWay dédié à l'élection présidentielle. Cette semaine, Bruno Jambard, directeur général adjoint, et Frédéric Michaud, directeur des études politiques d'OpinionWay, se demandent où sont passés les électeurs de la droite et reviennent sur la théorie du vote caché.
Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une question qui taraude probablement un peu tous les sondeurs en ce moment. Où sont passés les électeurs de la droite? Parce que c'est vrai que quand on regarde les rapports de force que l'on mesure dans les intentions de vote aujourd'hui, on est extrêmement frappé par le fait de constater que alors que depuis 2012 c'est la gauche qui était très faible scrutin après scrutin et la droite qui plutôt s'en sortait bien dans les élections intermédiaires, cette année, pour cette présidentielle, on a plutôt un rapport de force à droite qui est relativement bas. Et si on prend par exemple Frédéric Le 4 François Fillon, il était autour de 25% au mois de janvier avant les révélations du canard enchaîné. Il a baissé brusquement suite à ses premières révélations. Et où en est-il depuis le lancement du Prezitrack le 6 février ?
Alors, ce qui est très frappant quand on observe la courbe d'intention de vote dont bénéficie François Fillon depuis le début du Prezitrack le 6 février, c'est son extrême platitude. C'est une courbe totalement stable avec des variations du score de François Fillon de très faible ampleur. Au plus haut, son score atteint 21%. Au plus bas, il baisse à 18% à la fin du mois de mars. Des variations donc très petites. On observe seulement deux légers reculs. D'abord, évidemment, au moment de l'annonce de sa mise en examen, il chute brutalement de 21% à 19%. Donc il perd 3 points en l'espace d'un jour, le vendredi 3 mars. Mais après le meeting du Trocadéro, le dimanche 5 mars, il regagne 1 point, 19% le lundi 6, 20% le mardi 7, 21% le mercredi 8. Donc en l'espace de quelques jours, la crise est terminée, il revient au statu quo ante. Et puis deuxième moment au cours duquel François Fillon baisse un peu, c'est la fameuse affaire des costumes. Là, il perd 2 points, mais à nouveau, il les regagne très très vite. On a donc une très forte résistance, une très forte solidité du candidat François Fillon depuis le début du Prezitrack, depuis 2 mois, avec aussi une incapacité à élargir son socle électoral.
Alors, ce qui est d'autant plus frappant, finalement, c'est que cette faiblesse de François Fillon, elle ne se traduit pas pour autant par une progression extrêmement forte de l'autre droite, hein, l'extrême droite. Et quand on regarde les résultats de Marine Le Pen dans les intentions de vote, pour le moment, on n'a pas le sentiment qu'elle profite massivement des difficultés de François Fillon. Sa courbe n'est pas corrélée forcément aux difficultés du candidat des Républicains. Et dans nos dernières enquêtes, elle est aujourd'hui autour de 24%. Ce qui est un niveau plutôt bas depuis le début des mesures du Prezitrack. Donc on ne peut pas faire l'hypothèse d'un basculement massif des électeurs de François Fillon vers Marine Le Pen suite aux affaires. Est-ce qu'on peut avoir une idée de où seraient passés finalement ces électeurs de la droite traditionnelle suite à cet affaiblissement de François Fillon ?
Oui, il y a un élément de réponse qui réside dans la trajectoire des électeurs qui avaient voté pour Nicolas Sarkozy en 2012, à peu près 27% de l'électorat français. Parmi ces électeurs, 60% seulement voteraient aujourd'hui pour François Fillon. C'est-à-dire que le candidat de la droite parvient à récupérer un petit peu plus de la moitié des électeurs de son camp. Marine Le Pen, elle, parvient à récupérer 90% des électeurs qui avaient voté pour elle en 2012. Alors évidemment, c'est la même candidate, alors qu'à droite, il y a un changement de candidat. Mais ça dit quand même bien une dispersion des voix de droite. Par exemple, 13% des électeurs de Nicolas Sarkozy voteraient aujourd'hui pour Emmanuel Macron. Donc dispersion au centre-gauche, et puis dispersion également à la droite de François Fillon. 4% voteraient pour Nicolas Dupont-Aignan, et puis surtout à l'extrême droite, puisque 17% des électeurs de Nicolas Sarkozy voteraient aujourd'hui pour Marine Le Pen. Ça explique le niveau très élevé, en tout cas plus élevé dans les intentions de vote de Marine Le Pen, et puis ça explique aussi la difficulté de François Fillon en comparaison avec le score de Nicolas Sarkozy en 2012.
Parce qu'il faut quand même rappeler que dans les élections intermédiaires, on a eu des scores pour la droite et l'extrême droite qui étaient extrêmement élevés. Hein. Quand on regarde au premier tour des élections régionales, et si on fait le total des candidats, des listes de droite et du Front National, on est à 59%. Même phénomène si on fait le total des listes de droite et du Front National, des candidats de droite et du Front National au départemental, avec autour de 60% des voix au premier tour. Aux élections européennes, c'est un peu différent puisque le centre se présentait séparément, mais même sans le centre, on est à 52% pour la droite et l'extrême droite. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit que François Fillon plus Marine Le Pen plus Nicolas Dupont-Aignan ont du mal à atteindre cette barre simplement des 50%, c'est un phénomène assez frappant. Il faut voir que dans notre enquête de vendredi dernier, on était sur ces trois candidats à 48%. 48%, c'est le même score pour ces trois blocs, finalement, hein, Dupont-Aignan, Les Républicains et le Front National, que le score de la droite au premier tour de la présidentielle de 2012, premier tour qui était plutôt dans une élection avec un niveau relativement bas pour la droite élargie dans ces circonstances. Donc c'est vrai qu'il y a là clairement une interrogation sur ce poids de la droite. Alors on voit bien effectivement, comme Frédéric l'a dit, que Emmanuel Macron a capté une partie de cet électorat, à la fois de centre-droit, mais pas seulement, face aux difficultés de François Fillon. Il l'a d'autant plus facilement capté que quand on fait une analyse des valeurs des différents électorats, on constate qu'il y a des proximités extrêmement fortes entre l'électorat Macron et Fillon sur les questions économiques et sociales. On a fait un certain nombre de régressions qui permettent de savoir quels sont les éléments constitutifs finalement de ces électorats et qui montrent que ce soit pour Fillon ou Macron, le fait de supprimer les 35 heures, c'est quelque chose qui compte énormément dans ces deux électorats. Le fait de ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux, c'est exactement aussi quelque chose qui compte énormément. Le fait de porter progressivement à 65 ans l'âge de la retraite, ça les rassemble également. Donc on voit bien que sur les questions économiques et sociales, il y a une très forte proximité qui explique pourquoi Emmanuel Macron a pu aspirer une partie de l'électorat de droite. Et finalement, la différence des électorats Fillon et Macron, elle ne porte que sur quelques points qui ne sont pas forcément les plus importants dans les choix des électeurs. Alors on peut citer des thématiques comme le mariage gay qui divise effectivement, avec d'un côté des électeurs Fillon qui y sont très opposés et des électeurs Macron qui y sont très favorables, ou les questions d'immigration sur lesquelles on constate un électorat Fillon beaucoup plus fermé à l'immigration que celui de Macron. Mais globalement, il y a une proximité très forte qui explique cette captation. Ce qui serait intéressant aussi, Frédéric, c'est de regarder est-ce que on a le sentiment qu'il y a un bloc homogène au sein de la droite. Quand on regarde, par exemple, ce que nous disent les électeurs de François Fillon dans les seconds tours, est-ce que finalement ils répondent à une logique droite-gauche en choisissant, par exemple, le Front National contre un candidat comme Macron, ou est-ce qu'ils sont là aussi attirés par Emmanuel Macron, ceux qui votent toujours aujourd'hui dans nos enquêtes pour François Fillon ?
Alors quand on observe les résultats des hypothèses de second tour, en prenant l'hypothèse d'un second tour qui opposerait Emmanuel Macron à Marine Le Pen, on observe que les électeurs de François Fillon se reporteraient en majorité, une majorité relative, 43%, sur le candidat d'En Marche, et puis dans une moindre mesure, il voterait pour Marine Le Pen, 30%, à peu près le même niveau, 27% choisiraient de s'abstenir ou de voter blanc ou nul. Un autre élément qui explique aussi peut-être ce faible score de François Fillon, si on le met en perspective avec les résultats électoraux de Nicolas Sarkozy lors des deux élections présidentielles précédentes, c'est effectivement les affaires. Et on voit bien que les différentes révélations sur le terrain judiciaire, mais pas seulement, ont porté un coup très important à l'image de François Fillon. Aujourd'hui, seuls 13% des Français considèrent qu'il est honnête. C'est 44% pour Emmanuel Macron, c'est même majoritaire pour Jean-Luc Mélenchon, 60%. Autre élément qui lui était très largement crédité, la stature présidentielle. Seuls 44% des Français considèrent qu'il a une stature présidentielle. C'est moins que Jean-Luc Mélenchon, alors même que François Fillon a été Premier ministre. C'est 10 points de moins également qu'Emmanuel Macron, 54%. On voit bien d'ailleurs, à cet égard, que l'électorat de droite est plongé dans une forme de perplexité et qu'il est tiraillé entre, d'un côté, une volonté d'alternance, qui est très forte, une adhésion idéologique au programme qui a été porté par François Fillon lors de la primaire, et d'un côté, et puis de l'autre côté, évidemment, une réprobation morale très très forte à l'égard des affaires, notamment après deux présidents de droite, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, dont les quinquennats ont été émaillés d'affaires judiciaires. On a bien vu que pendant la primaire, le succès de François Fillon avait été de se présenter de manière à incarner la vertu, l'honnêteté et la probité. Ça renforce encore plus cet effet désastreux des affaires.
Alors ce faible niveau global de la droite, il explique probablement aussi pourquoi la thématique du vote caché en faveur de François Fillon fonctionne aussi bien dans le débat en ce moment. Puisque finalement on a du mal à retrouver nos électeurs de droite dans les enquêtes, il est évident que le fait de dire que c'est parce que les sondés n'oseraient pas le dire, ou c'est parce qu'on n'aurait pas les bons sondés dans les échantillons, que ce niveau serait bas, et non pas parce que la droite serait affaibli et que son candidat François Fillon serait affaibli, que la situation se produirait. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cette question du vote caché? La première chose, c'est que nous, on ne croit pas du tout à l'hypothèse d'un vote caché. C'est-à-dire qu'on ne pense pas que les sondés ne nous disent pas qu'ils veulent voter pour François Fillon et qu'ils le feront au final. En revanche, il y a une question qui renvoie à toute cette problématique de l'image de François Fillon aujourd'hui, qui peut se poser, c'est est-ce qu'on n'a pas des électeurs à droite qui sont tiraillés finalement entre deux éléments contradictoires. D'un côté, comme l'a dit Frédéric, cette très forte exaspération et cette très forte colère à l'égard de ce qu'ils ont appris sur François Fillon, qui les choque énormément, qui les gêne pour une partie d'entre eux. Et puis, à l'inverse, cette adhésion aussi assez forte à l'idée qu'il est le seul à avoir un programme qui puisse représenter l'alternance par rapport au pouvoir actuel, et qu'il a finalement un programme qui permettrait d'améliorer la situation du pays. Et en revanche, si on pense qu'il n'y a pas de vote caché, il y a une interrogation sur comment se dénouera un peu cette crise de conscience au sein d'un certain nombre d'électeurs de droite. Est-ce qu'elle ne se dénouera pas finalement tardivement, dans les derniers jours, voire le jour même du scrutin, avec une attitude qui serait de voir leur vote traditionnel, l'attirance de leur camp traditionnel reprendre le pas sur leur colère et leur exaspération à l'égard des affaires. Ça, c'est une vraie question, mais il faut bien comprendre que si c'est ça, ça n'est pas du vote caché, ça n'est pas des gens qui ne veulent pas nous dire qu'ils votent pour François Fillon, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont aujourd'hui un peu entre ces deux situations, qui voient plutôt la première, celle de l'image et de l'impact des affaires l'emporter sur la seconde, celle du projet, et qui pourraient, au moment du choix décisif, voir, je dirais, leur vote être rattrapé par leurs convictions profondes. C'est moins une question finalement de vote caché que de conflit émotionnel qui peut exister pour les électeurs, comme on y est tous confrontés finalement au moment où on doit mettre son bulletin dans l'urne. Et ça rappelle une chose importante, c'est que un sondage, ça n'est pas un vote. Ça se fait dans des conditions assez différentes, effectivement. On y répond de manière assez à froid, alors que le vote, il y a tout un cérémonial qui fait qu'on rentre dans un bureau de vote et qui peut effectivement conduire à des attitudes un petit peu différentes. Donc pas de vote caché de notre point de vue. Est-ce que pour autant, Frédéric, ça peut modifier fondamentalement le rapport de force que l'on mesure aujourd'hui dans les intentions de vote ?
Alors, ce qui peut arriver, c'est un retournement de dernière minute, c'est-à-dire une mobilisation du corps électoral entre la dernière enquête que nous publions et le jour du scrutin, qui pourrait peut-être provoquer un apport d'un ou deux points sur l'un des quatre candidats qui aujourd'hui est en mesure de participer au second tour, et de ce fait, d'inverser, de modifier l'ordre de qualification, provoquant une surprise sur l'identité des deux candidats qualifiés. J'en reviens juste sur le vote caché pour dire qu'il faut bien percevoir aussi que c'est un argument de campagne. C'est un argument qui est agité dans le débat électoral à des fins de mobilisation de l'électorat de la droite. On mobilise à l'appui de cette thèse. Évidemment, l'exemple américain avec l'élection de Donald Trump, l'exemple anglais du Brexit, d'ailleurs deux exemples qui eux aussi mériteraient d'être analysés du point de vue du vote caché. En réalité, on cherche à faire croire que la question du vote caché est un phénomène nouveau. C'est pas du tout le cas. La première fois qu'on a parlé historiquement du vote caché, c'était lors des élections générales britanniques de 1992. Tout le monde s'attendait à la chute du parti conservateur après plusieurs années de thatchérisme, mais finalement les conservateurs l'ont emporté à leur grande surprise, et s'est développé dans le sillage de l'élection toute une théorie dite du shy Tory voter, de l'électeur conservateur timide qui n'aurait pas été suffisamment confiant pour avouer ou admettre son vote conservateur dans les enquêtes, qui par conséquent auraient été très largement biaisées en faveur du parti travailliste. Donc on voit que c'est pas une thématique qui est nouvelle. On voit aussi qu'elle existe beaucoup plus dans les pays anglo-saxons, avec évidemment un mode de scrutin très différent, bipartisan. Évidemment, quand les transferts se font beaucoup plus facilement entre les deux candidats, les choses sont évidemment beaucoup plus complexes dans un système électoral comme le nôtre, où il y a une pluralité de candidats.
Voilà ce qu'on pouvait vous dire cette semaine sur la situation de la droite à environ deux semaines du premier tour de l'élection présidentielle. On vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du PrésiCast.